De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben je vous écoute, parlez, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
J'en suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique. C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour, la semaine dernière nous écoutions Marco Bellocchio, le réalisateur italien septuagénaire. C'est au tour maintenant de Costa Gavras, le réalisateur de 86 ans, d'être au sommaire de cette émission. On va vous proposer de l'écouter en interview, mais également, eh bien, on va vous permettre de jouer un blind test. Il faudra découvrir 5 titres de ses films, de sa filmographie qui contient plus de 20 films. Et puis nous parlerons de son dernier film, Manu.
Adult in the Room, un thriller politique sur le Grexit. Et puis je vous parlerai aussi de la suite de Shining, Doctor Sleep.
Et puis toi Marine, tu as vu deux films qui sont en salle depuis le 6 novembre.
Et j'irai même plus loin, pour moi c'est carrément, je pense, deux de mes coups de cœur de l'année. Une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de La Belle Époque, le nouveau film de Nicolas Bedos, et de J'ai perdu mon corps, un film d'animation de Sébastien Clapin.
Deux films qui étaient projetés à Cannes, tout comme Oleg de Juris Kursietis, voilà dont je vous parlerai. Allez, Les Ravages de la Nostalgie, on pourrait le dire comme ça, La Belle Époque de Nicolas Bedos.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
C'est un passe-temps surprenant.
Tiens, ça s'appelle une chambre d'amis. Vu qu'on n'a plus d'amis, t'as qu'à dormir ici, si tant est qu'on soit amis.
Tu veux plus qu'on dorme ensemble?
Non, j'ai l'impression de vieillir plus vite quand je m'endors à côté de toi.
Et paf.
Victor, interprété par Daniel Auteuil, est un homme d'une soixantaine d'années qui se sent un peu fatigué par le monde qui l'entoure. Sa femme, en revanche, interprétée par Fanny Ardant, dont on vient d'entendre la voix si reconnaissable, est une productrice ambitieuse qui, à 60 ans passés, n'entend pas se laisser dépasser par la modernité et travaille dans la réalité virtuelle. Entre eux deux, cela fait un moment que la passion s'est étiolée et ils se supportent plus qu'ils ne s'aiment, aux grandes âmes de leur fils qui décide d'offrir à son père un cadeau pas comme les autres pour lui redonner un peu goût à la vie. Il lui propose de revivre pour une soirée l'époque de son choix, la belle époque, vous l'aurez compris, par le biais d'une société de spectacle qui propose de vous faire revivre le passé avec force des corps et comédiens. Victor va décider de revivre la nuit où il a rencontré sa femme et naturellement, rien ne se passera comme prévu.
Si vous deviez revivre une époque, vous choisiriez laquelle?
La préhistoire. J'ai couché encore avec ma femme.
Cher monsieur Drummond, votre fils et moi serions très honorés de vous offrir la soirée de votre choix dans le cadre des voyageurs du temps.
Quand vous dites que vous organisez des soirées sur mesure, c'est pas seulement de la pub.
Concernant l'époque, vous avez une idée?
Le 16 mai 74. Ce jour-là, j'ai rencontré une personne que j'aimais beaucoup. Vous avez mis son parfum. Tu me manques. Vraiment.
Elle revient quand?
Elle n'est pas censée revenir, ce sont des comédiens.
Margot, t'as couché avec lui, en fait.
Je ne peux plus.
Je sais pas ce qui va se passer, mais vivez-le à fond.
Merde!
Putain, je parle comme une chanson.
Seconde réalisation donc de Nicolas Bedos, La Belle Époque, présentée à Cannes hors compétition cette année, est une réussite en tout point. L'écriture est brillante, le film dure quand même 2 heures, et Bedos parvient à nous emmener de bout en bout dans une histoire à la fois profondément ancrée dans la réalité, dans le présent, et en même temps tellement romanesque. Un scénario porté par des dialogues savoureux, incisifs, parfois très cruels, et parfois d'une douceur et d'une profondeur assumée. Il y a chez Bedos un vrai plaisir à décortiquer les humains, leurs petits travers et ce qui les rend attachants. Chaque personnage ici est porteur d'une vérité complexe et c'est ce qui rend le film si intéressant, en plus d'être extrêmement divertissant, il faut le dire. Il faut dire aussi que tous les personnages sont interprétés eh bien, par des comédiens excellents autour de Daniel Auteuil et de Fanny Ardant, Guillaume Canet, Michael Cohen et surtout Doria Tillier qui, je pense, en 2-3 films seulement, prouve qu'elle est en train de devenir une grande actrice, ou plutôt qu'elle l'était depuis toujours, mais qu'il suffisait à Nicolas Bedos de la révéler. Dans La Belle Époque, il y a naturellement une mise en abîme vis-à-vis du cinéma. Le personnage de réalisateur acariâtre joué par Guillaume Canet qui vit une relation d'amour-haine avec sa comédienne principale et bien sûr l'alter-ego fictionnel de Nicolas Bedos. Mais ce n'est pas pour autant un film qui entend théoriser sur le cinéma. Le film se contente d'être teinté d'une perpétuelle ironie à l'encontre du 7e art. Non, La Belle Époque, c'est surtout un film qui parle de relations amoureuses, de relations de couple, de l'évolution des sentiments, du désir qui s'en va. Et c'est un film très drôle, mais qui a une belle profondeur et qui sait très bien faire des allées et venues sans cesse entre l'émotion et le rire. Alors j'avais beaucoup défendu au micro de Cinérama la première réalisation de Nicolas Bedos, Monsieur et Madame Edelman, qui est passée totalement inaperçue à mon sens, de façon très injuste dans le paysage du cinéma français. Alors que c'était une comédie douce amère qui était très réussie. Et je pense qu'avec La Belle Époque, eh bien Nicolas Bedos tient son succès populaire et son succès critique. Et j'oserais même dire, je pense que l'on tient enfin un réalisateur capable d'écrire des comédies dramatiques un peu intello, sans être trop élitiste, c'est ce qui manquait tant à la France. Et non, Emmanuel Mouret ne compte pas.
En tout cas, il passerait de la comédie dramatique à la comédie tout court, puisqu'il va réaliser OSS 117.
Alerte rouge en Afrique noire.
En tout cas, ça donne envie. La Belle Époque de Nicolas Bedos est en salle depuis le 6 novembre. Allez, l'esclavage moderne dans une grande capitale, c'est Oleg de Juris Cursiétis.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passerait aisément.
Beaucoup de films qui viennent du froid ces derniers temps me semblent très réussis, soit pour leur sujet ou soit pour leur forme exigeante. C'est encore le cas avec Oleg, donc du réalisateur letton Juris Cursiétis, qui nous emmène dans une histoire d'esclavage moderne à deux pas de chez nous, soit Bruxelles, avec le sort réservé aux étrangers qui viennent y trouver un meilleur boulot. Cette histoire s'inspire d'une histoire vraie, documentée par un ami journaliste du réalisateur, qui a réalisé une longue enquête au sujet de ces hommes qui, une fois qu'ils sont arrivés à destination, eh bien, sont pris dans des rouages qui les dépassent. Alors précision, le réalisateur a longtemps travaillé comme journaliste à la télévision. Oleg, le titre du film, c'est aussi le prénom du personnage, autant dire qu'il sera de tous les plans et bien dans le plan. Hein. C'est rien de le dire puisque le réalisateur a fait ce choix d'un format télévision, donc une image carrée qui permet d'enfermer le personnage dans son environnement immédiat. Oleg, c'est un jeune boucher, il a quitté la Lettonie donc pour Bruxelles. Là-bas, on le voit travailler dans un abattoir, mais très vite, hein, les choses tournent mal. Sur fond de communautarisme, il y a des ouvriers de toutes les nationalités. Eh bien, le voilà renvoyé à tort de l'usine et également de la colocation qu'il occupait. Alors, sur sa trajectoire qui se complique, lui qui pourtant a un regard si doux, rencontre un jeune Polonais qui l'invite à venir dans une maison à l'écart de la ville en lui promettant du boulot. Mais là encore, la proposition qui apparaissait bienfaitrice, eh bien, cache un malaise. Versatile, ce Polonais joue le chaud et le froid, capable de changer d'humeur en un instant, passant de la compréhension et l'entraide aux menaces et à la violence. C'est un Oleg captif, vulnérable, qui nous apparaît. Pourtant, à aucun moment, son humanité ne déraille. Et malgré toutes les embrouilles dans lesquelles il tombe, avec une certaine naïveté, on ne quitte jamais l'empathie pour ce touchant personnage. Tourner caméra épaule dans des endroits parfois exigus, rythmés par des séquences de violence autant physique que psychologique, Oleg est autant le portrait de l'immigration moderne que celui d'un homme loin de chez lui qui guette l'humanité chez les autres. Ce personnage qui n'a gardé le lien dans son pays qu'avec sa grand-mère, hein, qu'il appelle de temps à autre, s'accroche au sourire qu'on lui adresse, aux mains qu'on lui tend. Filant la métaphore dans une des rares séquences empreintes de fantastique et d'onirisme, il nous raconte qu'il se perçoit comme l'agneau sacrificiel. Et il est vrai qu'Oleg aura peu d'aide dans son malheur. Même quand on le croit en de bonnes mains, quelque chose déraille. Le réalisateur adopte un point de vue tranchant sur son sujet, séparant bien ces migrants du travail du reste de la population. Il égratigne d'ailleurs au passage la bien-pensance de gauche. Le réalisateur joue également sur le suspense, la relation entre le bourreau polonais et Oleg allant crescendo, ce qui n'est pas sans attrait, faisant dévier ce conte moderne et politique vers le thriller et le film mafieux. La maîtrise du sujet, la mise en scène et les acteurs permettent à ce film de vraiment laisser une trace durable. Il m'a fait forte impression à Cannes, comme tes films, Marine, finalement. Et voilà, il est en salle depuis le 30 octobre. C'est le gros sujet de cette émission, le dernier film de Costa Gavras, le combat entre la Grèce et l'Europe, vu comme une tragédie, on pourrait le dire comme ça.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Nous reviendrons aux questions plus tard.
Alors le titre « Adult in the Room », ironique certes, est un peu plus juste, en accord avec un récit étouffant, circonscrit dans un environnement clos, coupé du monde. Car il s'agit bien de cela, d'adultes sur qui pèsent de lourdes responsabilités, confinés dans des chambres closes où se joue l'avenir d'un pays. Alors dans ces lieux presque sacrés, des politiciens théorisent, échafaudent des plans, font des stratégies, comme des joueurs professionnels embarqués dans une course effrénée contre la montre. Alors sauf qu'il ne s'agit pas d'un jeu, mais d'une réalité sociale et politique ayant fait trembler l'Europe et surtout la population grecque directement concernés. Alors, petit rappel des faits, en 2015, après 7 ans de crise ayant ruiné le pays, la Grèce est au bord du gouffre, mais un espoir subsiste. Les élections amènent un souffle, une reprise possible en ouvrant les portes à une gauche radicale et humaniste, en plaçant à la tête du pays Alexis Tsitsipas et le ministre des Finances, Yanis Varoufakis, dont le film s'avère l'adaptation de son propre roman, en fait. Une position partisane que Gavras assume avec courage. Le film raconte comment Varoufakis va mener un combat drastique face à une commission européenne favorable à l'austérité pour sauver la face, quitte à appauvrir encore davantage une population plongée dans la misère. Alors, à 86 ans, Gavras revient sur sa terre natale et signe sans doute son meilleur film depuis très longtemps, une tragédie grecque sur la destinée d'un pays en pleine déroute, retrouvant fugacement un espoir grâce à la gauche, avant les cruelles désillusions suivant le référendum du 5 juillet 2015. Alors, prenant la forme, on va dire, d'un thriller, ce film d'ossier à l'intelligence de ne jamais perdre le spectateur en acceptant la redondance des situations. Et c'est cette redondance qui nous accroche, nous captive, empêchant de devenir un pensum indigeste gavé de termes techniques. Le scénario est remarquablement construit, ne laissant rien au hasard, illustré par une mise en scène nerveuse. Costa Gavras utilise à merveille ces espaces clos comme autant de lieux étouffants où les joutes verbales bafusent, où les discours s'opposent entre utopistes et conservateurs, entre deux visions du monde qui ne peuvent que nous interpeller et nous inquiéter. Alors, malgré des réserves, notamment dans le fait de présenter le ministre des Finances comme une sorte de héros, de chevalier blanc, et puis également lorsqu'il s'essaie maladroitement, on va dire, l'onirisme, malgré ces réserves-là, ce film est vraiment un excellent thriller politique qui peut plaire en fait un peu à tout le monde.
Eh bien, on va écouter Costa Gavras qui va parler aussi de la petite comédie ironique, sous forme d'ironie, qu'il a mis dans ce film, qui est avant tout donc une tragédie politique. Voilà, on écoute le réalisateur de 86 ans.
Si nous remportons ces élections, tout va changer.
Ils sont notre force vitale.
Aujourd'hui, l'Europe va enfin comprendre qui nous sommes vraiment.
Tu es ministre des Finances et vous avez obtenu la majorité en vous alliant à la droite nationaliste. Les Allemands et leurs alliés vont vous asphyxier. Ils feront tout pour vous écraser, vous et l'espoir que vous représentez.
Le thème de la résistance, on devrait le trouver, on le trouve dans pratiquement tous mes films. C'est une attitude, c'est un comportement essentiel dans l'homme, d'une manière générale, et la femme, bien sûr.
Je ne demande en aucun cas l'effacement de notre énorme dette, mais plutôt sa restructuration.
Je suis persuadé que nous ferons du bon travail.
La réussite de votre programme sera aussi notre réussite.
Ils ne te laisseront pas faire.
L'Europe a mis sur pied un plan de sauvetage pour la Grèce.
Le plan de sauvetage était destiné aux banques allemandes et françaises.
L'idée, c'est ça, de parler du peuple ou de parler de côté. J'ai réuni beaucoup de matériel pendant les premières années, comme ça, tout en faisant autre chose. Mais rien n'est sorti pour faire une histoire, pour faire un film. Et puis la gauche est venue au pouvoir et je me disais, bon, quelque chose va changer. Rien n'a changé, ça a continué. Jusqu'au moment où il a eu le référendum, et après le référendum, il y a quelqu'un qui a démissionné. Je me suis dit, pourquoi il a démissionné cet homme? C'était le seul de tout le monde. Et j'ai voulu le voir. Je l'ai rencontré et il m'a raconté ce qui s'est passé à l'intérieur. Pas seulement il m'a raconté, mais il m'a fait écouter. Parce qu'à bout de moment, il s'est aperçu qu'il n'y avait pas de compte-rendu de ces réunions. Rien. Comme on fait toujours des compte-rendus. C'est ça. Rien. Alors chacun sortait dehors, il déclarait ce qu'il voulait, on ne peut pas le démentir. Lui-même arrivé à son gouvernement, il ne savait pas quoi leur dire. Parce qu'il fallait me dire, j'ai dit ceci, ils m'ont répondu cela. Alors il a enregistré tout. Et il a des heures et des heures d'enregistrement. Il m'a dit, j'écris un livre sur tout cela. Je lui ai dit, il faut que je lise le livre quand vous l'avez fini. Il a commencé à m'envoyer des chapitres, un après chapitre, au fur et à mesure de l'écriture. Et c'est très vite que je me suis aperçu que voilà, on avait l'extérieur et j'avais l'intérieur aussi. Donc, pour faire, pas vraiment un mélodrame, mais pour faire un drame, une tragédie avec peut-être un peu de comédie dedans, parce que tout ça, il y avait quand même de la comédie dans tout cela, j'ai commencé à travailler là-dessus.
Leur dette colossale a été transférée sur le dos de notre peuple.
Le peuple grec a des obligations.
Cela entraînera la fermeture de vos banques et votre exclusion de la zone euro.
Vous voulez nous exclure de l'euro?
Ce n'est pas ce que j'ai dit.
Vous le laissez entendre. C'est lui qui devrait être exclu. Il nous faut un Yanixit.
Il va falloir céder sur un point, si on veut parvenir enfin à un accord.
C'est un piège. Tous les pays de l'Union vont chercher à te faire plier.
Signez le MOU ou sortez de l'euro.
Vous nous faites perdre notre temps!
La forme, c'est passé au début à une sorte de mélodrame par rapport à ce qui est arrivé au peuple grec. C'est des choses que vous ne prenez pas. Moi, je l'ai su par téléphone, des amis qui m'ont appelé. Vous avez des jeunes qui sont mariés, ils ont un enfant, deux enfants, ils sont séparés de leurs parents. Ils n'ont plus le travail. Qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent vivre avec les parents. Et vous avez des centaines et des centaines de groupes comme ça. Voilà, il y a des milliers de cas comme ça, et je me dis, il y a un film là. Et puis très vite, ça venait une sorte de mélodrame répété comme le drame du pays. Mais très vite, la présence de l'Europe, cette réunion-là à l'intérieur, de ce grand groupe, l'espace, plus les différents personnages, m'a donné plus l'idée de faire une sorte de tragédie. Tragédie avec, comme j'ai répété, avec un peu de comédie, d'ironie, avec une distance ironique. Voilà. Et j'ai adopté l'idée de la tragédie. C'est-à-dire, c'est quoi la tragédie? C'est que tout le monde a ses raisons, qui ne sont pas toujours les bonnes raisons ou les raisons des uns et des autres. Et c'est avec l'idée-là que je construis le film, et naturellement avec l'idée, il parle beaucoup de suspense, mais le suspense, il est dans toute la tragédie. Il est partout, le suspense, dans la vie. Pourquoi on achète le journal tous les jours? Pour apprendre quelque chose. Voilà. C'est là le suspense.
Si vous étiez à ma place, vous signeriez le MOU.
Vos banques fermées, vous n'aurez plus d'argent.
Comme les Beatles chantent, « Money can't buy me love ».
Vous écoutiez Costa Gavras, c'est un son qui nous a été fourni par Caroline Barbary, qu'on remercie parce que voilà, on n'a pas pu être présent à ce moment-là. Maintenant, c'est l'occasion de jouer un blind test parce que cet homme, eh bien, il a réalisé plus de 20 longs métrages. Il a été 3 fois récompensé à Cannes. Il a eu la Palme d'Or pour Missing en 82. Il a eu un César, celui du meilleur scénario original pour Amen. Il a eu un Ours d'Or pour Music Box et il a eu plusieurs Oscars. Un pour Missing et un autre pour Z. Voilà, donc il a collectionné pas mal de prix quand même. On le rappelle, le blind test, ce sont 5 extraits qu'on vous fait écouter. Il faut tout simplement deviner le titre du film. Là, ça va être a priori très facile.
Je pense que vous êtes communiste.
Moi ! Et vous ! Et Yago aussi, parce que vous êtes amis. C'est une phrase qui t'a échappé sûrement, qui me fait penser que tu l'es. Vous comprenez, les riches ont un rhume, plouf, une semaine au lit, nous les pauvres, une fêlure, faut travailler, sinon c'est le cimetière. Et tu n'as pas fini ta phrase parce que tu as compris que tu te trahissais.
Mais je déteste les communistes! Je cours, les paroles ne m'intéressent pas, je me dépêche!
Il n'y a qu'un communiste pour dire ou penser ce genre de phrase.
Je fais partie d'une organisation qui combat les communistes, eux et leurs amis.
Et Yago?
Yago aussi.
Comment s'appelle-t-elle? Croc, combattant royaliste de l'Occident chrétien.
Alors, ça a été trouvé.
Il s'agit de Z.
Oui, et il était déjà en Grèce, du coup, comme pour le film.
D'un film français quand même.
Oui. Mm. Non, mais il était en Grèce parce que c'était un réquisitoire contre la dictature des colonels.
C'est le seul film, en fait, je crois qu'il a fait.
Et c'était un immense succès. Près de 4 millions de spectateurs l'ont vu en France, film de 1969. Deuxième extrait.
Il a pu être torturé, peut-être il a été battu si fort qu'il le garde jusqu'à ce qu'il soit en état d'être relâché, je ne sais pas moi, et ça m'est égal. Je jure que ça m'est égal. Parce que ce qui est fait, est fait. Je veux que vous contactiez ces gens et que vous leur disiez que je reprendrai Charles, quel que soit son état. Je ne ferai pas de scandale. Je ne dirai rien aux journaux, à qui que ce soit. Vous m'indiquez la conduite à suivre et je m'y conforme. Je pardonne à tout le monde, n'importe quoi, n'importe qui. Je ne veux rien d'autre que mon enfant.
Ça a été trouvé.
Oui, c'est Missing. Et là, on entend la voix française de Jack Lemmon.
Oui, c'était encore un coup d'État, celui de Pinochet. Donc, film de 1982. Allez, maintenant, un film un peu plus proche de nous.
Oh, c'est gentil, merci. Hein.
Ouais, il faut s'entraider. Hein. Demain, c'est peut-être mon jour.
Oh, vous êtes un pilier ici.
On est 3. Moi, je suis le plus ancien. Donc, le premier à gicler, forcément.
Oui, mais vous avez l'expérience.
Et c'est moi qui coûte le plus cher. Seulement, j'ai un plan. Si je perds mon boulot, je monte au bureau. Je me tire une prune dans le citron devant eux.
Devant eux. Et pourquoi vous ne tirez pas une prune dans le citron d'un des deux autres? Préventivement.
Alors, trouvez, Marine.
Non, parce que moi, j'avais dit Amen, en fait.
J'ai mal entendu. Donc, c'est effectivement le coup près, film de 2005. José Garcia, qui est un chômeur de longue durée, donc décide d'éliminer physiquement les postulants les plus sérieux au même emploi que lui. Eh bien, c'est un film qui n'a pas été apprécié par beaucoup de spectateurs, un peu plus de 600 000 en France. Allez, nouvel extrait.
J'ai des informations ultra secrètes sur les camps d'extermination d'Hitler.
Qui est donc? Nous avons là un agent secret qui quitte son poste sans en informer l'annonce.
Éminence, je suis venu pour informer le Saint-Père.
Le Saint-Père tient ce monsieur Hitler dans une piètre estime. Et depuis qu'il a signé ce pacte infâme avec ce Staline-là, rien de ce qu'il fait ne surprend sa sainteté.
À cette époque, j'avais pourtant prévenu le Saint-Père qu'il devait s'agir d'une ruse.
Il a attaqué trop tard. Et le voilà, à son tour, bloqué en plein hiver russe. Le Saint-Père se fait du souci. Hitler doit écraser Staline et signer la paix avec les Américains, afin que toutes ces horreurs, qui sont un véritable crève-cœur pour sa sainteté, cessent enfin.
Alors là, tu peux le dire, Marine.
C'était Amen, mais Manu l'avait trouvé avant moi.
Grave, je te le laisse.
Cette fois-ci, c'était la dénonciation du manque d'engagement de l'Église, hein, contre la politique exterminationniste d'Hitler. Un peu plus de 1 300 000 spectateurs en France. Dernier extrait de ce blind test.
Au début, on cherche à aider le parti. L'aider à voir clair en soi-même et comprendre pourquoi on est là, quelle faute vous y a conduit. On est tout disposé à faire son autocritique, à admettre des erreurs qui ont porté préjudice au parti. Les années de lutte et de discipline, toute notre éducation, nous portaient à croire que le parti ne se trompait jamais, que l'URSS a toujours raison.
Dans cette affaire, nous ne sommes pas seuls. Nous avons des conseillers.
Combien de fois avons-nous dit, tout fiers de cette humilité, qu'il valait mieux se tromper avec le parti qu'avoir raison hors de lui.
Trouvé.
C'est l'aveu.
Oui, on entendait Yves Montand, il y avait aussi Simone Signoret dans ce film, et l'assistant réalisateur était Alain Corneau. Oui. Voilà. Et là, c'était cette fois-ci la dénonciation du totalitarisme. Un peu plus de 2 100 000 spectateurs en France. Il faut savoir que Costa Gavras, avec l'ensemble de ses films, a réuni une moyenne de 982 000 spectateurs.
Et qu'il a dénoncé environ 15 dictatures différentes.
Effectivement.
4 coups d'État.
C'est le cas. Allez, on passe au deuxième film que tu as tant apprécié, Marine. C'est « J'ai perdu mon corps », film d'animation.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Tout commence avec une main coupée qui reprend conscience, oui, car c'est une main animée d'une conscience, dans une sorte de laboratoire, sans que l'on sache vraiment ce qu'elle fait là. Et cette main décide, eh bien, tout naturellement, hein, de s'enfuir et d'aller à la recherche de son propriétaire. Commence alors un long périple dans un Paris hostile, froid et gris, qui sera vécu entièrement, vous l'aurez compris, du point de vue d'une main. En parallèle, nous découvrons la personne à qui appartenait cette main, un jeune homme qui s'appelle Naoufel, et nous découvrons leur passé commun. On entendait la très jolie musique composée par Dan Levy, qui était un des membres du groupe The Do et qui a fait toute la BO du film et qui est magnifique. Sébastien Clapin signe ici son premier long-métrage. Il faut savoir que son précédent court-métrage, Skyzen, a reçu 90 prix de par le monde. Donc il a sans doute été occupé, j'imagine, pendant quelques années à participer à tous ces festivals. Et puis ensuite, ça a dû lui prendre beaucoup de temps de trouver une maison suffisamment grande pour entreposer tous ces prix. Eh bien, il va sans doute devoir trouver une maison encore plus grande, car J'ai perdu mon corps, avant même sa sortie en salle, jouit d'un franc succès. Prix de la semaine de la critique à Cannes cette année, prix du public au festival d'Annecy, pour ne citer que cela. J'ai perdu mon corps semble être le film qui va redonner non pas ses lettres de noblesse, mais peut-être un souffle nouveau à l'animation française, car c'est vrai qu'entre Laguioni et Michel Oslo, on était peut-être un peu en perte de modernité. L'animation ici est assez magnifique, assez merveilleuse. Hein. On est dans de l'animation pour adultes, clairement. Je déconseille même assez fortement aux enfants, pour la bonne raison que les thématiques abordées sont quand même propres à l'âge adulte et c'est un film d'animation qui est assez dur, bien que très poétique. On pense sans doute pour le soin donné à la mise en scène, à l'animation japonaise, peut-être aussi pour le mélange assumé et réussi d'un écrit profondément réaliste et d'un onirisme omniprésent. C'est un film qui réveille, au-delà du plaisir cinématographique, toutes sortes d'émotions en vous. Alors, je le conseille plus que fortement. Précision, Netflix vient d'acheter le film. Et je pense qu'il est important de le voir en salle avant de le voir sur Netflix, sur petit écran, car le traitement du son, notamment, est l'un des atouts majeurs du film. Dernier point que j'ai trouvé fort appréciable. Les voix des personnages sont faites par des comédiens qui ont été choisis eh bien parce qu'ils sont bons et non parce que ce sont des stars, comme c'est le cas en fait systématiquement maintenant dans tous les films d'animation, qu'ils soient doublés en français ou qu'ils soient français depuis quelques années. Je trouve ça un petit peu dommage. Mmh.
Tu as raison de le noter, effectivement, c'est une bonne chose. Allez, J'ai perdu mon corps, donc de Jérémy Clapin, en salle depuis le 6 novembre. Un autre film dont on n'avait pas parlé la semaine dernière, Stephen King's Doctor Sleep de Mike Flanagan, nous donne l'occasion d'écouter eh bien, ceci.
Qui est Tony ?
Tony est le petit garçon qui vit dans ma bouche.
Est-ce que Tony est celui qui te raconte des choses ?
Oui.
Et comment il te les raconte ?
C'est comme si je m'endormais et il me montre des choses. Mais quand je me réveille, je me rappelle pas tout ce que j'ai vu.
Alors, souvenir, hein, parce que ça, c'est le Danny.
C'est le Danny du Shining de Kubrick.
Et, oui, et, voilà. Oui. Et que là, on revoit grand.
Ben oui. Voilà. Et en 2013, hein, Stephen King, donc, donne une suite, hein, tant attendue, donc à Shining, avec Dr. Sleep, un livre d'ailleurs qui a beaucoup déçu ses fans. Hein. Alors, une adaptation cinématographique était à redouter, d'autant qu'après ça et le remake de Cimetière, l'un des écrivains les plus lus au monde semblait quelque peu trahi par la machine hollywoodienne. Alors, 2 mois après les aventures maléfiques du clown inquiétant, voici donc le retour de Danny Torrance, qui a troqué son tricycle pour une vie de débauche, le plongeant dans l'alcoolisme, encore marqué par les événements tragiques qu'il a vécu à l'Overlook Hotel. Alors, après des années de sevrage, revenu à un semblant de vie normale, il rencontre à distance, hein, par voie télépathique, hein, Alba, adolescente téméraire au don extrasensoriel. Alors, ce pouvoir lui permet de rentrer en contact avec la redoutable Rose Clake et sa tribu du nœud vrai qui se nourrissent des êtres possédant le fameux Shining afin de conquérir l'immortalité. Alors, Alba cherche alors en Danny un allié pour combattre ses forces du mal, sorte de vampire des temps modernes, ne suçant alors pas le sang des victimes et aspirant alors leur vape. C'est ce qui est, enfin, en tout cas, c'est la traduction française. En aidant la jeune fille, Danny va devoir puiser en ses propres pouvoirs endormis, ainsi qu'affronter ses peurs et réveiller les fantômes du passé.
Ce monde est féroce. Dangereux.
Ces gens-là font du mal à ceux qui sont comme nous.
Ces démons vides mangent ceux qui ont le Shining. Et ils ont repéré cette petite fille.
Salut, toi. Sortez de ma tête, sortez!
Oui, cours, ma chérie. Je te retrouverai. Et tu hurleras pendant des années.
Viens jouer avec nous, à jamais.
Non, c'était les jumelles.
Oui, elles apparaissent dedans en fait. Hein. Alors, pari risqué, hein, jugé par beaucoup comme inutile vu la piètre réputation du roman que je n'ai pas lu. Dr. Sleep s'avère néanmoins une très bonne surprise, hein, malgré certains défauts, hein, et surtout une longueur excessive de 2h34. Une plaie quand même courante du cinéma américain contemporain. Alors, succéder à Stanley Kubrick n'est pas une mince gageure. Il fallait trouver un cinéaste à la hauteur des ambitions de cette suite, bah, qui ravira quelques souvenirs et frustrera sans doute aussi les admirateurs de l'auteur de Barry Lyndon. Pourtant, le choix de Mike Flanagan, hein, derrière la caméra se révèle payant sans doute l'intuition la plus pertinente des producteurs de la Warner. Découvert grâce à son formidable The Mirror, il a aussi signé les excellents Pas un bruit et Ne t'endors pas, devenant alors, on va dire, l'un des successeurs les plus crédibles et talentueux de Wes Craven, John Carpenter et George Romero, renouant avec une forme de classicisme oublié. Alors, plébiscité grâce à sa série The Haunting of Oz Hill, la relecture du roman de Shirley Jackson, La Maison du Diable, Mike Flanagan se retrouve à la tête d'une œuvre ambitieuse qui parvient dans ses meilleurs moments à se hisser au niveau des meilleures adaptations du Maître de l'Épouvante. Après un début déroutant à la structure narrative complexe, Dr. Sleep organise un récit assez simple, l'éternel combat entre le bien et le mal, l'un étant incarné par une certaine idée de l'enfance, passée et présente, et l'autre par des nomades maléfiques, symbole d'une société aspirant l'énergie et l'imaginaire des enfants. Alors, on retrouve à nouveau l'univers mélancolique et sombre de Stephen King et particulièrement sa vision des enchantés de l'innocence saccagée. Alors, baignant dans une atmosphère trouble, magnifiée par une photographie nocturne de toute beauté, retrouvant l'éclat esthétique, on va dire, des productions fantastiques des années 80, le film de Mike Flanagan émeut autant qu'il terrifie. Ce voyage intérieur de deux paumés luttant autant pour leur survie que pour sauver autrui s'avère passionnant dès lors que le réalisateur s'écarte des conventions, notamment une psychologie des personnages assez sommaire. Alors, à l'ambition métaphysique et cosmique du film Cerveau de Kubrick, Flanagan préfère embraser la carte de la poésie et de la terreur pure, primitive et émouvante. Voilà. L'ombre du maître est écrasante lors des plans-séquences aériens sur la musique de Wendy Carlos ou lorsqu'enfin Danny et Alba atterrissent donc dans l'hôtel qui boucle la boucle, insérant alors des extraits de l'original. Les sœurs jumelles, on a le sang coulant à flot de l'ascenseur, la scène du bar, la machine à écrire, ravivent tout ça des souvenirs qui ne parasitent jamais le film, parvenant à trouver une identité, un ton particulier, si particulier au réalisateur, à Flanagan, qui soigne donc une mise en scène ample, traversée d'idées graphiques singulières. Flanagan sait poser sa caméra au bon endroit, ne surcharge jamais ses plans de musique inutiles, évite les jumpscares et les effets gore faciles. Il renoue sans peine avec le classicisme d'un Robert Wise, le réalisateur d'ailleurs de la première adaptation du roman de La Maison du Diable. Il offre aussi un beau rôle à Ewan McGregor, qu'on avait un petit peu oublié ces temps-ci. Je ne sais pas, ça doit faire 4-5 ans que je ne l'ai pas vu dans un film.
Je pense que c'était à cause de Trainspotting 2, à mon avis.
Ce qui est compréhensible alors.
Allez, on va se replonger quand même dans le film de Kubrick, parce que ça a été une de mes premières découvertes cinématographiques, sinon la première, c'est ce qui m'a vraiment ouvert au cinéma.
Je me rappelle
Lorsque j'étais encore tout môme, ma grand-mère et moi avions des conversations des heures entières sans jamais avoir ouvert la bouche. Elle appelait ça le Shining. Et pendant longtemps, j'ai cru que nous étions les deux seuls à avoir le Shining. Comme toi, tu as cru sans doute que tu étais le seul. Mais d'autres ont ce pouvoir, quoique la plupart l'ignorent ou ne veulent pas y croire. Le Shining.
Voilà, faites-vous un combo, le Shining plus ce nouveau film Stephen King's Dr. Sleep.
C'est fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oh, c'est pas possible.
Non, si, je vous assure.
Vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez-moi le camp !
Allez, la semaine prochaine, en tant qu'admirateur de sport automobile, j'aurais vu Le Mans 66 de James Mangold.
Et moi, un film au titre énigmatique, Cocody Cocoda et une reprise, Evil Dead 2.
Et, toi,
et moi, deux titres énigmatiques, Noir Rêve, un film franco-tunisien, et un documentaire qui s'intitule Océan.